Les informations sont présentées ce midi par Adrien Taufollet. Bonjour Adrien.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Un missile russe dans le ciel de Pologne, nouvelle violation de l'espace aérien polonais ce matin, un missile destiné à l'Ukraine, mais qui n'a pas manqué de provoquer la colère de Varsovie alors que la Russie est en deuil national aujourd'hui en mémoire des victimes de l'attaque meurtrière à Moscou vendredi. Dans l'actualité également, la présidentielle au Sénégal, les électeurs votent depuis ce matin sous la surveillance d'observateurs de la société civile. La situation humanitaire catastrophique au Soudan, famine, pillage, violence, conséquence de la guerre civile qui frappe le pays depuis plus d'un an, nous fera un point sur la situation avec notre invité Clément Dehé, chercheur à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Et puis, en France, week-end de sensibilisation de l'association France Parkinson, qui met en avant les bienfaits encore trop méconnus du sport, de l'activité physique sur la progression de la maladie. Les Polonais n'ont pas eu le temps de s'en rendre compte, mais les militaires ont suivi sa course dès son entrée dans l'espace aérien de Pologne. Un missile de croisière russe est passé au-dessus du pays ce matin, violant l'espace aérien. L'engin a, semble-t-il, été dévié de sa trajectoire initiale, puisqu'il faisait partie des attaques aériennes massives lancées à l'aube par les forces russes contre l'ouest de l'Ukraine. Ce matin, les réactions de Varsovie n'ont pas tardé.
Pendant 39 secondes, les responsables de l'armée polonaise ont gardé les yeux sur leur radar. De longues secondes où le missile russe est entré en Pologne à près de 800 km/h à 400 mètres au-dessus de la tête des Polonais. Mais ce missile n'a pas été abattu. Le commandant opérationnel des forces armées, Maciej Klich, a expliqué ce matin que la Pologne agit dans des conditions de paix. Et détruire ce type de missile qui transporte des explosifs pourrait retomber sur un hôpital ou une maison et tuer des gens. Alors l'armée a suivi le missile en étant persuadée, vu les conditions, qu'il allait retourner sur le sol ukrainien. Et cette fois, elle est sûre à 100% qu'il ne s'est pas écrasé en Pologne. Je dis cette fois parce que deux missiles se sont déjà écrasés en Pologne. Une première fois à la frontière, un missile est tombé sur une ferme faisant deux morts, mais c'était une fusée de défense anti-aérienne ukrainienne qui avait fait fausse route. Et une deuxième fois, un missile s'est écrasé à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière dans une forêt polonaise sans que personne ne le sache. C'est un promeneur qui l'avait découvert trois mois plus tard. Alors ce matin, le gouvernement a réagi et il exigera des explications à la Russie pour cette nouvelle violation de l'espace aérien.
Martin Chabal, gouvernement polonais qui a également relevé le niveau d'alerte à sa frontière. Cet événement est en tout cas loin d'être anecdotique, alors que la Russie est officiellement en deuil national ce dimanche, après l'attaque meurtrière revendiquée par le groupe État islamique vendredi contre une salle de concert de Moscou. Vladimir Poutine hier s'est engagé à punir tous les auteurs de l'attaque, qui a fait 133 morts et plus de 150 blessés, laissant entendre une implication ukrainienne dans l'attentat. Ce matin, l'armée russe a donc procédé à des frappes massives de missiles et de drones qui ont notamment visé des infrastructures à Kiev, la capitale, et à Lviv, sans faire de victimes. Troisième vague de frappes russes en quatre jours. De son côté, l'Ukraine affirme avoir touché deux navires russes lors d'une attaque sur Sébastopol, siège de la flotte russe en mer Noire. Direction le continent africain à présent, avec d'abord l'élection présidentielle au Sénégal, initialement prévue le 25 février. Mais reporté à ce dimanche. Plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes depuis ce matin. 17 candidats à départager et deux favoris. Le candidat du pouvoir, Amadou Ba, ancien Premier ministre et dauphin désigné par le président sortant Macky Sall. Face à lui, Bassirou Diomaye Faye, bras droit de l'opposant Ousmane Sonko, qui n'a pas pu se présenter. Candidat anti-système qui pourrait renverser toute la politique nationale et internationale du pays. Face à de tels enjeux, le collectif des organisations de la société civile pour les élections se mobilisent dans 14 régions du pays pour vérifier le bon déroulement du vote. C'est un reportage à Dakar de Théa Olivier.
Dans une salle équipée d'un écran géant où défilent des statistiques, des membres de l'équipe de veille et d'analyse vérifient le bon déroulement du vote. Ils sont en contact permanent avec les 1300 observateurs répartis sur le territoire qui font remonter les dysfonctionnements pour pouvoir ensuite les corriger. Cher Tidiane Cissé est le coordonnateur du collectif sénégalais des organisations de la société civile pour les élections.
Nous voulons apprécier la qualité et la transparence du processus électoral. Cette méthodologie nous permet de superviser et d'observer l'ouverture du bureau, le taux de participation et la fermeture des bureaux.
Ce scrutin présidentiel se tient un mois après la date initialement prévue à cause d'un report qui avait été initié par le président Macky Sall et qui avait créé une crise politique sans précédent. Babacar Gaye, président du collectif de la société civile, est pourtant confiant.
On organise cette élection dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Il nous faut absolument avoir un taux de participation appréciable pour compenser tous les dysfonctionnements passés.
Plus de 2400 observateurs nationaux et internationaux sont accrédités pour surveiller le scrutin, selon Biram Sen de la Direction générale des élections.
Cette observation permet de légitimer une élection, mais ça permet également de participer à la transparence du processus électoral.
Le rôle de la société civile est donc primordial, alors que l'une des craintes est la contestation post-électorale si les résultats venaient à être serrés.
Théa Olivier, au Nigeria, un heureux dénouement pour les élèves de l'école de Kuriga dans le nord-ouest du pays. L'armée annonce que les près de 140 élèves enlevés début mars ont été libérés. Cette zone est le théâtre d'enlèvements à grande échelle ces dernières années et de nombreuses victimes restent généralement longtemps disparues. Les explications de notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis.
C'est donc dans l'état de Zamfara, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de leur village, que les otages ont été libérés. Cet état de Zamfara est l'épicentre de la grave crise sécuritaire qui frappe depuis un peu plus d'une décennie le nord-ouest du Nigeria. Il sert de base arrière, de sanctuaire à plusieurs dizaines de milliers de criminels agissant en groupe et auteurs de braquages armés et d'enlèvements. Pas de détails encore sur l'opération ayant mené à ce succès. Ce sont bien 137 otages, 76 filles et donc 61 garçons qui ont été secourus. Ils seraient sains et saufs. Selon le porte-parole de l'armée nigériane, le général Edward Buba, ces élèves de l'école primaire et secondaire de Kuriga devraient être remis au gouvernement de l'état de Kaduna dans la journée. Cette libération enlève une sacrée épine du pied au président Bola Ahmed Tinubu. Il s'évite un cauchemar similaire au kidnapping de masse en avril 2014 de 276 lycéennes. Un enlèvement qui avait mis le village de Chibok à la une de l'actualité mondiale.
Au Soudan, les populations balayées par la guerre civile vivent l'une des pires catastrophes humanitaires de mémoire récente. Ce constat, sous forme d'alerte, vient d'être posé par les Nations Unies cette semaine, alors que depuis près d'un an, les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo font rage. On compte des milliers de morts et plus de 8 millions de déplacés selon l'ONU, et aucune perspective d'amélioration de la situation ne se dessine pour ce pays qui est pourtant le troisième plus grand du continent africain. Pour en parler, l'invité de ce journal est Clément D. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur spécialiste de l'Afrique de l'Est à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors, en quoi la situation actuelle au Soudan est-elle l'une des pires catastrophes humanitaires de mémoire récente, comme le dit l'ONU ?
Alors, excusez-moi, petit rectificatif, je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Cela étant dit, parlons plutôt du Soudan, qui est une crise en effet humanitaire absolument catastrophique. Nous avons, donc, comme vous l'avez dit, plus de 8 millions de réfugiés, mais il ne faut de déplacés internes, dont 2 millions de réfugiés. Il ne faut pas oublier que le pays connaissait déjà des déplacés internes issus des guerres du Darfour et du Sud-Soudan, donc environ 3 millions de déplacés qu'il faut ajouter à ce nombre de 8 millions. Il faut aussi dire qu'il y a à peu près 17 millions de personnes qui sont en nécessité d'aide humanitaire, d'après les UN, dont seulement la moitié qui sont atteignables par les organisations humanitaires. Et donc on a une situation qui est une situation catastrophique, qui est alimentée par l'extrême violence du conflit. Hein. On a des bombardements massifs aériens dans les zones du conflit, on a des bombardements d'artillerie lourde, on a des raids. Il faut aussi rappeler peut-être que les UN avaient déjà alerté il y a 2 ou 3 mois sur des nettoyages ethniques au Darfour hein, qui ont fait environ 15 000 morts dans la ville d'El Geneina. Donc c'est le panel d'experts des UN qui avait soulevé cette question-là. Donc on a quelque chose qui est extrêmement dramatique et d'autant plus dramatique que les frontières étant relativement fermées, l'aide humanitaire a beaucoup de difficultés à atteindre les populations qui ont besoin de cette aide. Et au-delà de la question seulement de pouvoir se nourrir, il y a aussi l'accès aux soins, puisque 70% des hôpitaux sont aujourd'hui fermés au Soudan et la population a de grandes difficultés de pouvoir avoir accès aux soins les plus basiques.
Alors tout cela, on l'a dit, est lié à la situation de la guerre civile, avec un conflit qui semble s'enliser du point de vue militaire en tout cas, avec aucun des deux camps qui n'arrive à prendre le dessus sur l'autre.
Alors oui, aujourd'hui la situation semble un petit peu bloquée, même si l'armée soudanaise, l'armée régulière, est repartie à l'offensive depuis environ un mois et a gagné quelques petites batailles. Néanmoins, quelques mois avant, c'était les forces de soutien rapide du général Hamdan Dagalo, donc dit Emeti, qui avait pris le dessus. Aujourd'hui, la situation est qu'on a un pays qui est plus ou moins divisé en deux, avec l'ouest du pays, le Darfour, le Kordofan et une grande partie de la capitale de Khartoum, qui est sous le contrôle des Rapid Support Forces, et l'est et le nord du pays, plutôt sous le contrôle de l'armée. Sachant que ces deux forces administrent différemment les territoires sous leur contrôle. Le point qui est particulièrement important à souligner, c'est que on est dans une nouvelle phase du conflit depuis quelques mois. On est dans une nouvelle phase du conflit parce que les deux forces armées commencent à s'épuiser, ont eu beaucoup de pertes et ont du mal à remplacer les combattants morts au combat. Et donc, les deux forces procède à un armement massif de la population qui se fait sous différentes formes, mais nous avons aujourd'hui une militarisation ou une milicianisation de la société avec l'apparition de nouveaux groupes armés, la distribution d'armes, notamment par l'armée soudanaise à la population, l'armement de groupes d'autodéfense par des marchands, par des groupes d'anciens révolutionnaires, puisque le Soudan a quand même connu une révolution importante en 2019. Et donc voilà, la nouvelle dynamique est plutôt cette dynamique de fragmentation et d'armement de la population qui est extrêmement dangereuse pour les mois à venir.
De nombreux acteurs, donc maintenant, on parle de l'ONU qui lance des appels régulièrement, appel à un cessez-le-feu début mars notamment, mais on a l'impression que ces appels sont un peu lancés dans le vide, sans véritable soutien de la communauté internationale qui a visiblement d'autres préoccupations, d'autres conflits.
La communauté internationale a tenté à plusieurs reprises, sous différentes formes, de mener des négociations. Alors, il y a eu une impulsion faite par les États-Unis au début du conflit qui n'a pas fonctionné. Les UN appellent régulièrement à des cessez-le-feu ou au minimum à des cessez-le-feu avec des couloirs humanitaires. Néanmoins, les UN ne sont pas écoutés par les deux belligérants sur le terrain. Il y a eu également des initiatives menées par les acteurs régionaux, donc l'Union africaine ou l'IGAD, qui est une organisation rassemblant les États de la Corne de l'Afrique. Néanmoins, aucune de ces initiatives n'a réellement pu fonctionner. Alors, en partie parce que le regard de la communauté internationale est tourné vers d'autres conflits comme l'Ukraine et Israël-Gaza, mais également parce que le conflit soudanais a avant tout des racines soudanaises et qu'une partie des acteurs régionaux ou internationaux ont énormément de difficultés à avoir une prise sur les différents belligérants, puisqu'il y a eu tout un système de sanctions qui ont été mises en place, depuis le début du conflit, ciblant les entreprises ou les individus des deux côtés, mais ces différentes sanctions, ces différentes pressions n'ont aujourd'hui pas réussi à faire plier les combattants ou à leur faire signer un cessez-le-feu.
Merci beaucoup Clément D d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions pour faire un point sur la situation au Soudan. Clément D, spécialiste de l'Afrique de l'Est. En France, l'actualité politique, une nouvelle fois dominée par les élections européennes à 3 mois du scrutin. Ce n'est pas son premier meeting, mais c'est celui qui lance officiellement la campagne de la liste PS Place Publique. Raphaël Glucksmann rassemble aujourd'hui ses soutiens en banlieue de Toulouse. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, avec plus de 270 000 malades en France. D'importants progrès ont été réalisés en matière de prise en charge. Les médicaments dopaminergiques font référence pour atténuer les conséquences de la maladie, mais la pratique d'activité sportive est également efficace pour ralentir sa progression, ce que beaucoup de malades et d'aidants ne savent pas toujours. France Parkinson organise donc une opération de sensibilisation tout le week-end à Paris, où s'est rendu Fanny Imbert.
Denis, 67 ans, assiste au match devant lui et compte les points. Diagnostiqué il y a 4 ans, se mettre au sport pour lui, ça a tout changé. Il a même pu diminuer son traitement à base de dopamine.
On peut dire que je suis quasiment sportif alors que je n'étais pas avant. Quand je fais le jeudi, le ping-pong le matin, la danse l'après-midi, je ne prends plus ma dopamine le midi.
Il n'existe aucune guérison à la maladie de Parkinson, mais des activités comme la marche, le ping-pong ou le yoga peuvent lutter contre le recroquevillement du corps et parfois prendre le relais des médicaments quand ils cessent d'être efficaces, selon Amandine Lagarde, directrice de Parkinson France.
On sait que plus on entretient les fonctions motrices, plus on fait de l'activité physique et sportive, et moins la maladie évoluera vite sur cet aspect moteur. C'est extrêmement important et intéressant pour les personnes malades de pratiquer cette activité physique régulièrement et de façon intensive, parce que c'est comme ça qu'elle sera efficace, pour justement avoir une action sur la maladie et lutter contre la maladie au quotidien.
Au-delà de traiter les symptômes, le sport pourrait aussi permettre au cerveau de limiter sa dégradation. C'est ce qu'on appelle la neuroprotection. Guillaume Aladonise est kiné, spécialiste de la maladie.
Quand vous faites un mouvement, le muscle se contracte et tire sur l'os. À l'initiation de tout ça, tout est neurologique. Lorsque la personne pense à faire un mouvement, veut faire un mouvement, planifie le mouvement, puis lorsqu'il le fait. Plus le mouvement est difficile, plus le mouvement est intense, meilleure sera la quantité de recrutement neurologique.
Les études montrent aussi que le sport génère naturellement de la dopamine, qui aide à mieux assimiler les traitements, voire à les réduire jusqu'à 20% dans certains cas.
Le temps cet après-midi, des éclaircies sur une large moitié du nord du pays et dans le sud-est, quelques gouttes de pluie en Alsace. Les températures sont douces, entre 12 et 17 degrés.